comment tu fais pour accueillir le changement dans ton intimité au sein du couple ?
Ta sexualité, il faut qu'elle te ressemble. Enfin, la sexualité que tu as, il faut qu'elle vous ressemble à vous deux en tant que couple et en tant que personne. Et ça, c'est important parce que même sans parler de comparaison à autrui, dans une vie, la sexualité, elle évolue et elle change aussi. Donc ça sert à rien aussi de tout le temps comparer à avant ou à 3 ans avant, etc. Dans ta vie, il y a énormément de choses qui se passent. Il n'y a pas que ta vie sexuelle, il n'y a pas que ta vie de couple, il n'y a pas que ta vie professionnelle ou slash activité que tu peux avoir ailleurs. Dans tout changement, en fait, il y a un lot d'apprentissage aussi derrière.
J'ai une question. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer quels sont finalement les avantages pour l'esprit, pour soi, pour son couple, à préserver une bonne connexion intime? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est bien?
Assalamu alaikum à toi. Moi, c'est Madina. Si tu es convaincue du bien fondé du mariage, mais que tu traverses quelques secousses durant ton voyage, alors tu es au bon endroit. Halal Love, c'est plus qu'un podcast, c'est une mission. Celle de nous rappeler la beauté, la singularité et la force qui se cachent derrière cette union sacrée. Chaque semaine, je reçois des couples, des professionnels, des savants, des hommes et des femmes, afin de converser sur le sujet. Ensemble, on cherche à comprendre pourquoi c'est compliqué, mais surtout, comment mieux y arriver. Bienvenue dans Halal Love, un rendez-vous hebdomadaire où l'amour est prioritaire et Allah, notre seul repère. Dans l'épisode du jour, je reçois une amie, et a priori, elle pourrait bien devenir la vôtre aussi. Jannah est sexologue et thérapeute de couple. Des discussions sur ces deux thèmes, on en a eu énormément, et alhamdoulilah, elles nous ont apporté beaucoup. C'est donc très naturellement que l'on a décidé de partager celle-ci avec vous. La première partie de notre échange est consacrée à notre perception de l'intimité. D'où vient-elle? Comment se construit-elle? Et pourquoi il est fondamental de se la réapproprier si l'on veut vraiment l'apprécier? La seconde partie de notre discussion ouvre la voie vers les solutions. Parmi celles énumérées, il y a la confiance en Allah. Et oui, même sur un sujet comme celui-ci, on doit et on peut compter sur lui. La confiance en soi, se poser les bonnes questions, aller chercher les solutions et accepter de faire un travail de fond, et enfin, redéfinir plus largement, ouvrir plus grand les limites de l'intimité pour élargir le champ des possibles et que chacun y trouve son plaisir. C'est une discussion à micro et cœur ouvert entre femmes. On rit beaucoup, on réfléchit énormément et on se livre sincèrement. On vous souhaite donc d'en faire tout autant. Sans plus tarder, je vous laisse profiter des enseignements de mon invité et vous souhaite, Inch'Allah, une excellente écoute.
Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh, Jannah, comment vas-tu?
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuh. Bah écoute, ça va et toi? Alhamdulillah.
Je suis ravie de te retrouver en ce jeudi matin, n'est-ce pas? On dit tout aux gens, nous sommes jeudi matin. Et,
allez
On s'enregistre avec Jannah pour la seconde fois, parce qu'on a eu un petit problème technique sur la première, donc et on a vraiment envie que ce sujet soit traité de manière audible, agréable pour tout le monde. Donc, je te remercie infiniment d'avoir bien voulu me donner de ton temps une seconde fois pour me rejoindre et discuter du sujet qu'on va aborder.
Avec grand plaisir, merci à toi. Toujours un plaisir, de toute façon, d'échanger avec toi.
De même. Bah, écoute, Jannah, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, est-ce que tu peux, s'il te plaît, te présenter en indiquant aux gens ta profession et puis un peu depuis combien d'années tu pratiques?
Moi, je m'appelle Jannah, je suis en termes de profession, si on devait qualifier ça, thérapeute, notamment de couple, et sexothérapeute. Donc, j'accompagne des personnes sur ces sujets-là, que ce soit en individuel ou en couple, sur des problématiques liées au relationnel, familial, sexologique aussi au niveau de la sexualité. Je suis aussi formatrice et je forme du coup sur ces sujets-là, en groupe ou individuellement.
Depuis combien de temps?
Depuis maintenant, alors en cabinet depuis 2020. Et après le projet au niveau des formations, etc., il est un peu plus, il dure depuis un peu plus longtemps, mais on va dire, dans ces zones-là.
Mais justement, on va commencer par ton expérience en cabinet, et même peut-être qu'en formation on t'en parle aussi, mais je me dis que peut-être qu'en cabinet les langues entre guillemets se délient plus facilement. Est-ce que tu peux nous dire quelles sont les problématiques que tu rencontres le plus souvent, et qu'est-ce que ça dit un petit peu de nous? Je m'explique juste avant de rentrer dans le vif du sujet, c'est que avec Diana, on a souvent des discussions sur plein de sujets. Et quand on parle notamment du sujet de l'intimité, de la sexualité, on voit qu'il y a des problématiques. Or, c'est un cadeau d'Allah, c'est une rahma. C'est même une amana. On en parlera à la fin de notre conversation, Inch'Allah. Et Diana, comment on a quand même très à cœur que ce soit perçu comme tel par un maximum de personnes. Mais pour ce faire, j'ai l'impression qu'il faut quand même qu'on parte du constat pour qu'on évolue un peu vers... des solutions, des réparations, un nouveau chemin. Je t'écoute, Diana.
Oui. Franchement, tu as dit énormément de choses déjà dans juste ta phrase là, qui est magique, qui est magnifique, machallah. Mais c'est vrai que... alors déjà, le premier constat, c'est qu'on vient souvent après, et longtemps après, que les problématiques apparaissent. Donc ça, c'est en tout cas moi ce que je remarque, c'est que parfois, bah, y a des mois, des années, parfois plusieurs années, après qu'on consulte. Quand je te dis plusieurs années, c'est vraiment, on peut aller dans les 3, 4, voire 10 ans, ça peut aller loin, hein, où on se décide. Ouais, ouais.
Donc le premier constat, c'est que déjà, on vient tard. C'est rien que ça, avant même de rentrer dans le sujet.
Oui, avant. Voilà, et c'est important parce que du coup, après, dans la prise en charge et l'accompagnement, bah, il y a des choses à voir, et il faut remonter en fait plus loin. Parce qu'entre le moment où la problématique qu'on vit, elle a apparu dans ta vie, et le moment où aujourd'hui tu passes la porte du cabinet, que ce soit à distance ou en présentiel, bah, y a des choses qui se sont passées. Il y a eu beaucoup de souffrance. Déjà la première personne concernée, et ensuite parfois pour son entourage, etc. Donc, c'est important de voir, parce qu'entre le moment qui était la personne au moment où elle a vécu cette problématique, et le moment où elle vient pour consulter, il y a souvent énormément de changements aussi, même si c'est pas lié, même si ça va pas dans le sens de la résolution de son problème. Et du coup, ça c'est le premier constat. Et la deuxième chose, pourquoi ça va nous aider, c'est d'analyser ça comme ça, en tout cas de le prendre en considération, c'est que si elle vient là maintenant, c'est qu'il y a une raison. Donc le plus important, et c'est pour ça que je le répète aussi, c'est que même si la prise en charge, le plus tôt elle est, le mieux c'est qu'il est jamais trop tard, entre guillemets, par rapport à certaines choses, pour pouvoir avancer, pour pouvoir améliorer sa vie intime, ses problématiques, etc. Simplement, pourquoi est-ce qu'on conseille le plus tôt? Déjà pour pas que ça crée d'autres dégâts à côté. D'accord, par capillarisation. Et la deuxième chose, c'est surtout pour prendre en charge la souffrance de la personne et éviter justement qu'elle ait toutes ces années après derrière à porter, on va dire, ce fardeau-là, cette souffrance-là. Après, dans la nature des problématiques, si on reste au niveau intime sexuel, il y en a plusieurs. C'est oui, tu voulais.
Non, je t'en prie, vas-y, continue.
Il y en a plusieurs. Il y a le ressenti de pas avoir envie, une baisse de libido, le ressenti de pas être sur la même fréquence, le ressenti ce qu'on appelle les dyspareunies, les douleurs lors des rapports sexuels, et puis le vaginisme, par exemple, si on parle vraiment pour les femmes, le vaginisme, c'est-à-dire l'impossibilité de pénétration lors d'un rapport.
Donc, si je résume bien, finalement, il y a des problèmes qui sont de l'ordre du physique, même si j'aime pas trop dissocier, t'as des problématiques qui sont plutôt liées à, soit à l'absence, quelque part, en fait, à l'absence de rapport, ou à une fréquence qui n'est pas satisfaisante. Mais tu vois, j'ai essayé de dissocier les deux, mais en fait, j'ai quand même l'impression que tout est un peu lié, c'est-à-dire que on s'en était déjà parlé, mais souvent le vaginisme, c'est pas juste ah j'ai mal lors d'un rapport, c'est que quelque part il y a un blocage qui se situe à un autre endroit, c'est ça?
Oui, mais de toute façon, ce qu'on appelle vaginisme, c'est une contraction involontaire des muscles du périnée. Donc le périnée, c'est un ensemble de muscles qui se situe dans la zone intime justement, et au niveau du vagin aussi, qui va empêcher la pénétration. Donc en fait, c'est pas le vagin qui est en cause, c'est le périnée. Mais et du coup, par rapport à ça, c'est aussi du coup une impossibilité de se relaxer, de se détendre pendant l'acte, etc. Et du coup, on voit très bien là que c'est un impact qui est physique, mais derrière, si on a du mal à vraiment s'ouvrir, à être sereine dans une relation sexuelle, et du coup dans une relation tout court et tout ce qui environne un petit peu cette question-là, bah derrière on voit que l'origine elle est aussi psychologique, elle est aussi au niveau de ses représentations, elle est aussi de comment on se voit soi, de comment est-ce qu'on voit la sexualité, et du coup forcément bah même en termes d'accompagnement ou de solutions, bah il y a des choses pratiques, mais on peut pas aller directement aux choses pratiques, on en parlait tout à l'heure. Si on fait pas le tour de ce qui détermine déjà bah ce qui entraîne ce manque, en tout cas de relâchement, de tout ce stress, etc.
Ben justement, là, tu as parlé de représentation et de perception. J'ai l'impression que c'est un grand pan, justement, dans notre rapport à l'intime. Est-ce que tu peux nous expliquer d'où vient, déjà, pour commencer, d'où ça vient notre perception de l'intimité, de la sexualité? Comment ça se construit? Ça se base sur quoi?
Alors, au niveau de la sexualité, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est à la fois quelque chose qui peut être très simple, mais en même temps complexe. Alors, on peut dire ça de beaucoup de choses dans la vie, donc quand je dis ça, je dis rien. Mais en même temps, c'est important de l'avoir en tête parce que faut pas le complexifier ou le compliquer. Mais par contre, c'est pas quelque chose en fait qui se construit ou qui est là au moment où on devient pubère ou on devient apte à avoir des premières relations au moment du mariage, etc. C'est quelque chose qui est déterminé très tôt en fait. Dès l'enfance, dès que en fait on observe, on voit, on ressent des choses, et du coup ça passe pas que par le verbal ou par l'expérience, en tout cas l'expérience au sens du couple ou relationnel, vraiment quand on est avec un homme par exemple ou une femme. Donc dès petit on engrange des informations, on ingère on est exposé à certaines choses. Que ce soit bah, familial déjà en premier lieu, le modèle parental qu'on peut avoir, les relations hommes-femmes qu'on peut voir autour de nous, après on peut aller un peu plus loin au niveau de l'école, au niveau du cercle agrandi, au niveau des supports de divertissement, etc. Donc les dessins animés, on peut aller très loin, donc tout ça, et on voit que tout ça, ça travaille sur quoi? Ça travaille pas sur le pratico-pratique tout de suite, parce qu'on l'entend même pas comme ça, et puis on a l'impression de juste être passif face à toutes ces informations auxquelles on est exposé. Mais en réalité, non, c'est des choses qui construisent certaines choses. C'est des choses qui construisent certaines représentations, qui construisent, déjà indirectement, ce qui est normal de ce qui n'est pas normal, qui construit ce qui est bien de ce qui n'est pas bien, dans la sexualité, parce que là, on parle de sexualité aussi avec un grand S, d'accord ? Et du coup, quel est mon rôle en tant que... finalement, quand je suis une petite fille et que je vois des femmes se positionner d'une certaine manière face à d'autres hommes, et que je vois que c'est la majorité, ou bien en tout cas, c'est la majorité des contenus auxquels je suis exposée, la majorité de ce que je vis au quotidien, dans ce que j'observe des relations... entre adultes, eh ben, ça commence à forger certaines choses de ce que moi, finalement, je vais devenir. Alors, bien sûr, c'est pas du tout conscientisé comme ça chez un enfant, évidemment, mais finalement, c'est ce qui se passe, et c'est pour ça que derrière, même quand on se dit qu'on n'a pas eu d'éducation, entre guillemets, sexuelle ou de couple ou au mariage, bah, une absence d'éducation formelle, entre guillemets, ça reste une éducation quand même. C'est-à-dire qu'il y a des choses qui se passent, on se nourrit de certaines choses, et derrière, ça a des impacts après plus tard dans sa relation avec son épouse, etc.
Donc, si je comprends bien, et ça, c'est quand même... un point qui me semble crucial, c'est qu'aujourd'hui, on construit notre rapport à l'intime, à la sexualité, sur ce qu'on voit et sur ce qu'on nous dit pas. Mais en réalité, rarement sur ce qu'on nous a dit clairement en nous disant « voici ce qu'est l'intimité » ou « mon fils, ma fille, quand tu te marieras, ça, ça fera partie de ta vie. Voilà comment est perçue l'intimité en islam. » C'est plus, en fait, quelque part, ce qu'on a aperçu. Tout est dans le non-dit, en fait. Ce qu'on a aperçu, ce qu'on a vu et ce qu'on nous a pas dit.
Bah, après, ça dépend, hein, parce que... En tout cas, alors ça va dépendre hein, des milieux familiaux et de comment tu transmets les choses. C'est-à-dire que non, il y a aussi beaucoup de choses où on va te dire les choses, même si c'est pas les forcément ce qui va être le plus fonctionnel possible pour que après tu puisses te construire de la meilleure manière possible dans ta sexualité. Par exemple, oui, faut faire attention. Les hommes sont comme ci, sont comme ça, et en faire certaines généralités sans expliquer le fond de vraiment voilà ce qu'on veut vraiment transmettre, etc. Mais en tout cas, pourquoi je parlais du reste, c'est que souvent on l'occulte et qu'on se dit que ça a pas d'impact parce que justement vu que c'est pas du concret, qu'en plus ça arrive très tôt et que on s'en rend pas forcément compte, c'est assez inconscient et puis on est tout le temps exposé finalement. Donc après ça va demander un effort de conscientisation de tout ça. Alors que le verbal, c'est assez simple de se rappeler de ce qu'on. Enfin ça dépend. Après parfois il y a des traumas etc. Donc ça reste de côté et puis faut le récupérer. Mais ça reste plus simple de se rattacher à des choses voilà pratiques. Et d'ailleurs souvent il y a beaucoup de femmes qui notamment justement vivent des difficultés et qui disent mais pourtant moi j'ai jamais eu de traumatisme, j'ai jamais subi d'agression, etc. Enfin tant mieux, mais le problème c'est que on se dit que voilà il faut qu'il y ait forcément quelque chose de hyper concret, enfin on va dire limité dans le temps et dans l'espace qui s'est passé et qui va entraîner tout le reste. Alors que non, parfois, il y a des choses, c'est aussi à dose homéopathique depuis petit. Et c'est pour ça que là, il y a un effort de conscientisation de ce qui s'est passé, de comment on l'a vécu et comment on le vit aujourd'hui.
C'est hyper intéressant. Et je rajouterais qu'il y a aussi, du coup, un effort de préservation à faire. Parce que, tu vois, enfin, moi, je suis née dans les années 80 et je pense que pendant très longtemps, les personnes qui sont nées dans les années... allez, 70-80 comme moi, on a eu ce discours de « mais moi, franchement, à mon époque, c'était quand même vachement mieux, nous, on jouait aux billes, etc., etc. » notre époque, c'est l'époque de Nicky Larson, là, donc du Club Dorothée, avec justement tous ces imaginaires qui, à mon avis, nous ont bien fait travailler au-dessus. C'est l'époque du Colas Rochaud, où on voyait des femmes à une heure de grande écoute qui n'étaient pas beaucoup habillées, hein, faut quand même se le dire. Et donc, au final, on a eu le sentiment, je pense, très longtemps, d'avoir été préservé, et en fait pas tant que ça. Je vais pas dire pas du tout, faut exagérer, mais pas tant que ça. Et je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que en tout cas pour ceux qui ont déjà des enfants, et même voilà, on a des neveux, des nièces, on est entouré de la nouvelle génération, être vigilant là-dessus et de se dire c'est pas parce que de prime abord ou en surface ça a l'air de bien se passer que derrière il va avoir des conséquences.
Oui, t'as raison, et faut pas se sentir épargné en tout cas, parce que on vit pas coupé du monde, à moins d'être complètement coupé du monde, et ce serait pas non plus une solution d'ailleurs, mais on n'échappe pas à ça parce qu'on vit dans une société, donc on fait partie de la société dans laquelle on est, peu importe où est-ce qu'on est, et du coup on nous transmet des choses, on transmet aussi soi des choses, même à son insu. Et du coup, voilà, faut vraiment le conscientiser et pas se sentir être l'exception, parce que c'est ok en fait. En fait, ça ajoute pas le fait d'avoir été entre guillemets à un moment de sa vie et de continuer à l'être en partie soumis, exposé à tout ça. Ça veut pas dire qu'on le sera toute sa vie. En tout cas, l'exposition peut être en partie, mais on peut la réduire, on peut la modifier, mais on peut ne plus y être soumis. Et c'est ok, mais il n'y a pas de hiérarchie à faire de voilà, oui, mais nous, on a été préservés. Après, par contre, ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, forcément, on est à l'ère d'Internet. Hein, tu parlais des années 80, au moins, il y avait quand même certaines choses qui passaient pas, en tout cas par ce canal. Et aujourd'hui, on va dire que les étapes pour être exposé encore à davantage d'autres choses, comme des contenus pornographiques ou des contenus qui sont pas forcément appropriés à des enfants ou des adolescents, on va dire qu'il y a moins d'étapes, quoi. Donc
Il faut bien l'avoir en tête. Ok. J'aimerais qu'on aborde un sujet en particulier. Pareil, c'est un sujet qu'on a souvent abordé, toi et moi. C'est que on entend souvent au détour d'une conversation ou à demi-mot avec des amis, notamment des amis femmes, quand elles nous parlent de l'intimité, ce fameux « moi, j'aime pas trop » ou « moi, je peux rester comme ça, sans rapport, sans relation intime, des mois, voire des années. » Ça me dérange pas. Le fameux, ça me dérange pas. Et en fait, c'est quand même quelque chose qu'on entend très, très souvent. Et moi, pendant très longtemps, je me suis dit, mais donc, du coup, c'est ça, moi, que je dois attendre. Du coup, le jour où moi, ça va m'arriver, c'est que ça me dérangera pas non plus. Ou ma question, c'est, est-ce que c'est une normalité? Enfin, on n'est pas là pour parler de normal, pas normal, mais est-ce que c'est une fatalité? Et puis surtout, moi, je me dis, encore une fois, c'est l'intimité au sein du couple, c'est quand même une amana. Donc, comment faire pour qu'on ait quand même une autre perception et qu'on sorte du « ça me dérange pas ».
Alors, moi, j'ai envie de poser ça. Alors, moi, ça ne m'étonne pas du tout, cette phrase, parce que j'en entends tout le temps et exactement comme tu l'as dit, hein, c'est-à-dire…
C'est vrai, dans ton cabinet, tu entends vraiment ce fameux « ça me dérange pas ».
Ah oui, ah non, mais la phrase, de toute façon, et je pense qu'il y a beaucoup de femmes qui nous écoutent, peut-être qui vont se reconnaître aussi dans ça, c'est de se dire, ah non, mais moi, franchement, je pourrais m'en passer, si c'était que moi, je pourrais m'en passer, je serais très bien, ça me rendrait pas malheureuse, au contraire, tu vois. Donc, alors, c'est pas pour rien qu'il y ait beaucoup de femmes qui ont ce discours, je pense qu'il y a des causes à ça, et quand on voit aussi, parfois, ce qu'on ressent ou ce qu'on vit ou ce qu'on a vécu justement au niveau sexuel et dans sa relation intime, etc., même aujourd'hui, je comprends en fait, parce qu'en fait, la vraie question c'est, avec ça, on comprend que tu n'as pas envie, finalement, que ça te manque pas. Mais c'est ce que tu as vécu et c'est comment tu le vis. Et du coup, le problème, c'est que si on associe ça à « c'est ça que ça doit être », bah forcément, tu te dis « bah oui, j'en ai pas besoin ». Si c'est ça, en fait, la sexualité, bah non, j'en ai pas besoin, je pourrais largement vivre sans. Donc, voilà, faut vraiment discerner ça. Et la deuxième chose, c'est, moi, j'interroge, est-ce que vraiment, en tant que femme célibataire, avant de te marier, avant d'être en couple, etc., est-ce que vraiment tu étais aussi déterminée, aussi catégorique, en tout cas, par rapport à ce constat?
Parce que détachée par rapport au sujet, en fait, en se disant, je suis sûre que ça me dérangera pas.
Ouais, exactement, ouais. Parce que je ne crois pas. Je ne crois pas. Au contraire, tout le monde s'imagine sa meilleure des vies avec son époux, son mari. Voilà, déjà, on essaie de se préserver, etc., pour beaucoup de personnes, hommes, femmes, de se dire, voilà, moi, je garde ça pour plus tard, parce que ça fait partie de mes convictions, de comment je vois les choses, etc. Donc forcément, entre guillemets, il y a cette chose, il y a ce côté de retarder pour après, encore plus être récompensé, et pas que au niveau divin, qu'on se dise clairement. Donc les gens ont envie, en fait, après, de profiter réellement de leur sexualité. Après, c'est pas toujours le cas, parce que justement, on a parlé d'éducation, de représentation, donc forcément, si, et souvent ça touche les femmes, si on te dit que finalement, en tant que femme, tu ne dois pas avoir d'envie, tu ne dois pas, on diabolise le désir, on diabolise un petit peu tout ça, derrière, forcément, tu te dis, bon, c'est peut-être pas quelque chose dans lequel je vais vraiment m'investir, etc. Mais hors ces cas de figure, et je suis sûre que, bon, on en avait déjà parlé, mais que beaucoup de femmes aussi se reconnaîtront, et c'est là que j'invite vraiment la réflexion. Est-ce que vraiment ça a toujours été le cas ou pas? Et là, souvent, quand on gratte un petit peu, on voit que, non. Non, ça n'a pas toujours été le cas. Voir quand ça se passait bien, au contraire, c'était pas le cas. Voir quand ça se passait bien, même tout court dans le couple, non, il n'y avait pas cette problématique. Et c'est au fur et à mesure que souvent elle s'installe. Donc, en fait, non, quand tu dis le prendre comme une fatalité, non, sauf si tu as envie que ça reste une fatalité et qu'il n'y a pas du tout d'envie de changer par rapport à ça. Mais normalement, comme tu l'as dit, ça reste une amana. C'est important de se dire que, voilà, quand on fait une démarche comme celle-là, de travailler sur ces problématiques, notamment de libido, de désir, etc., on le fait aussi pour soi. Parce qu'il y a aussi ce truc de, je le fais du coup, dans le prolongement je le fais du coup juste pour mon mari. Parce que moi, je pourrais vivre sans. Mais le problème, c'est que ça, c'est aussi délétère. C'est, je dis pas que c'est pas ok de le faire pour, parce que voilà, on a envie aussi de faire plaisir à l'autre, de régler, enfin, de diminuer les souffrances, etc. En termes d'incompréhension sexuelle, d'attente, etc. Mais par contre, non, il faut aussi que ce soit pour toi, parce que pour que ça se pérennise dans le temps, eh ben, il va falloir te réinscrire dans cette démarche-là comme une actrice vraiment de ta propre sexualité. Et c'est ok que ça prenne du temps, c'est ok que ce soit difficile au début, etc. Mais non, cette remarque-là, tu vois, elle est pas anodine. Madina.
Ouais. Et justement, du coup, comment tu fais pour être acteur ou actrice de ta propre sexualité? Comment tu fais, du coup, pour avancer vers ce mieux? Parce que, enfin, peut-être aussi que tu pourras me dire comment tu passes du je vais vivre ma meilleure vie à ça me dérange pas. Ça, je sais pas si on va vraiment parler. Et puis surtout, comment tu fais pour sortir de ça, en fait?
Bah, par rapport à ce qui mène en tout cas à ces désillusions, parce que clairement, en fait, c'est souvent des désillusions. Il y a beaucoup de désillusions, il y a aussi beaucoup de confirmations de peur. Si toute ta vie, on te dit, tu entends par les copines, tes tantes ou je ne sais qui, que la sexualité, c'est douloureux, que la première fois notamment, c'est douloureux, ça doit être douloureux, que tu vois ça comme une effusion de douleur, voire voilà, de sang, etc. Alors que c'est pas censé se passer comme ça. Évidemment que finalement ça va créer un conditionnement qui va justement notamment te mettre dans une certaine tension, une non ouverture, un non apaisement par rapport à ton corps, à comment ça va se passer, etc. Par rapport à ton partenaire aussi. Et du coup derrière, limite c'est presque une prophétie autoréalisatrice, c'est-à-dire que du coup derrière on s'est auto-conditionné et on a été en partie conditionné aussi par l'extérieur pour que ça se passe comme ça. Alors que, non, en fait, normalement, une première fois, ça ne doit pas être douloureux. Les relations sexuelles tout court ne doivent pas être d'ordre général douloureuses. Si c'est douloureux, c'est qu'il y a un problème quelque part. Et du coup, il faut le voir plus comme un signe, pas comme une fatalité, pas comme, pour moi, j'ai tiré le mauvais, tu vois, la mauvaise carte. Et du coup, pour moi, c'est sûr que ce sera douloureux et ce sera toute ma vie. Malheureusement, je ne fais pas partie de ces femmes pour qui ça peut bien se passer. Mais non. Il faut plus voir la douleur, en fait. Alhamdoulilah qu'on a la douleur, parce qu'elle nous permet de nous envoyer des signes. Je pense que beaucoup d'entre nous, si on n'avait pas parfois notre corps qui nous rappelait un petit peu à l'ordre par rapport à certaines choses, on s'enfoncerait dans des situations qui ne sont pas les bonnes pour nous. C'est la même chose au niveau de la sexualité. S'il y a une douleur, il y a peut-être un problème quelque part. Peut-être une infection, peut-être que la position n'est pas bonne, peut-être que derrière, il y a quelque chose qui bloque au niveau de la relation, etc. Mais ça ne veut pas dire que... Voilà, il faut vraiment prendre les choses telles qu'elles sont pour une information, fatalité. En fait.
C'est vraiment ça. C'est une information, mais c'est pas fini. Parce que moi, je trouve que parmi les autres choses qu'on entend des proches, des tantes et tout ça, c'est... de toute façon, les hommes, ils pensent qu'à ça. Donc, donne-lui un peu, et puis après, tu passeras une bonne nuit. Fais attention, parce que les anges, ils vont te maudire. Enfin, tu vois, il y a des choses comme ça où, effectivement, au-delà de la douleur, il y a aussi, je trouve, beaucoup du langage et des choses qui n'encouragent pas aussi... En fait, t'as l'impression que l'homme, il a le droit de prendre sa part, mais toi, tu le fais, comme tu le disais, plus pour l'homme. Dans tous les cas, arrivera forcément un moment où toi, en tant que femme, ça va plus t'intéresser, et c'est tout à fait normal.
Oui. Catastrophique. Catastrophique comme vision, du coup, parce que... Alors, quand je dis catastrophique, c'est pas pour juger cette vision-là. Je l'entends parce qu'elle a des causes. Mais c'est catastrophique dans le sens où ça mène en fait à des positionnements, à des actions, à comment tu te positionnes aussi vraiment dans le couple, etc.
Ouais. Là, t'es vraiment dans un rapport, tu vois, où
t'es dans un rapport de force même.
Mais oui, alors que l'intimité, ça devrait être un moment où vous êtes en fusion. C'est quand même vraiment hyper antagoniste et c'est fort dommage, je pense.
Oui, et c'est en tout cas, on peut pas dire que ça va dans un sens fonctionnel, sain, et de ce que Dieu aussi veut pour nous, en fait, parce que en faisant ça, on va même contre des fondamentaux, finalement. La sexualité, le couple, doit pas être en fait un lieu de rapport de force. Ça veut pas dire qu'il y en a jamais. Ça ne veut pas dire qu'à certains moments donnés, il n'y en a pas et qu'il faut qu'on travaille dessus. Parce qu'on fait partie aussi d'une société, on est aussi déterminé. Bon, je ne vais pas revenir par rapport à tout ça, mais bon, on a compris. Mais par contre, il ne faut pas le trouver comme normal et il ne faut pas aller vers la pérennisation de ça en se disant « bah c'est comme ça ». Et du coup, je laisse les choses se faire comme ça. Et du coup, soit je suis dans la soumission, parce que clairement c'est ça, parce que du coup, personne n'a envie d'être forcé. Et justement, c'est un problème, parce que en sexualité, le plus tu vas te sentir forcé, le plus derrière, ça va être délétère pour toi, pour ta vision de toi-même en tant que femme, pour ta vision de toi-même, de comment tu te projettes dans les yeux de ton époux, pour ton propre plaisir, parce que tu peux pas te sentir forcé derrière, te relâcher, prendre du plaisir, etc. En donner aussi réellement, avec plaisir, et surtout, garder ça dans le temps en gardant une vision, on va dire, rahmatique ou en tout cas qui s'inscrit dans quelque chose de plus grand. Parce que le consentement et la bonne volonté dans certaines choses, même si elle se fait tout court dans sa relation aussi avec Dieu. Donc, si on n'arrête pas de dire oui, mais voilà, ça c'est... On ne passe que par le devoir, mais dans son mauvais sens du terme, pas dans son sens noble et où on préserve l'intégrité de l'être humain et des deux partenaires. Là, ça va poser problème parce que c'est complètement contradictoire en fait. Ça ne fonctionne pas comme ça.
Ok. Et alors du coup, si on passe à la partie un peu solution, à comment faire justement pour se défaire de cette perception ou de ces rôles dans lesquels on a mis chacun, est-ce que c'est possible et ça passe par quoi?
Alors, oui, bien sûr, c'est possible, heureusement. Mais la première chose que j'ai envie de dire, tu vois, Madina, c'est il faut le vouloir. Parce que parfois, on peut venir avec une problématique, mais ne pas vouloir sortir justement de ces perceptions-là.
Pour X raisons. Tu vois, des fois en cabinet, des gens qui viennent avec un problème, mais tu sens qu'ils n'ont pas l'envie de vraiment le résoudre.
C'est même pas tant « j'ai pas envie de le résoudre », c'est plus... ça va demander un travail, du coup, il faut être prêt à faire ce travail, et peut-être que parfois, c'est normal, hein, après, l'être humain est tenté à avoir des solutions sans avoir tout ce qu'il y a derrière. Donc, tout ce travail, cette remise en question, parce qu'après... Ce qui est compréhensible en partie, hein, parce que du coup, tu vas devoir te confronter à toi en partie, tu vas devoir te confronter à ton histoire aussi. Et du coup, tu sors de ce qu'on t'a appris, tu te remets en position d'acteur et tu te remets en position de responsable, de personne responsable. Et ça, c'est pas... Même si comme ça, on a l'impression que c'est justement, c'est beau, c'est bien, etc., c'est pas si facile à faire. Parce que quand toute ta vie t'a fonctionné d'une certaine manière, on te dit là peut-être que c'est problématique. Moi c'est ancré, donc c'est pas forcément, je veux pas du tout, je suis pas prête à régler mon problème, mais je veux régler mon problème d'une certaine manière. Alors ça c'est ok, on peut essayer d'adapter certaines choses, etc., parce que le but c'est pas de tout révolutionner non plus ou de tout changer non plus chez la personne, mais par contre faut quand même appeler un chat un chat, et quand il y a des choses qui sont complètement délétères, on peut pas se permettre d'avancer dans quelque chose en termes pratico-pratiques si derrière on travaille pas sur le fond. Et ça c'est difficile. En tout cas surtout quand on veut faire un travail de fond et tu vois qui s'inscrit dans le temps, Madina, parce que l'objectif c'est que après derrière faut s'autonomiser, etc. On parlait de responsabilisation, mais c'est aussi, même si on a besoin à un moment donné peut-être d'un accompagnement, voir une sage-femme, voir un sexologue, un psy, peu importe. Mais l'objectif derrière, ça reste l'autonomisation, justement. C'est pas d'être, perfusé aux séances ou de dépendre de quelqu'un d'autre, d'accord ?
Donc ce que j'allais dire, d'être tributaire en fait à chaque fois d'un avis, parce que c'est un petit peu le mood du moment en fait, de se dire je vais chercher à l'extérieur de moi-même pour trouver la solution. Et moi j'ai été un peu aussi victime de ça, en fait pas du tout victime, je suis pas responsable non plus, mais en tout cas j'ai été dans cette dynamique là de me dire je vais chercher la la au-delà même de la solution, c'est l'approbation ailleurs, en fait. La réponse, en fait. Et la réalité, c'est que Allah subhanahu wa ta'ala, il a mis en nous et dans sa relation de lui à nous, déjà des réponses et des solutions. Et il faut avoir, je pense, plus de confiance en ce rapport-là et aller déjà plus, pour moi en tout cas, dans ce rapport-là, plutôt qu'à chaque fois se dire « Non mais là, si j'appelle pas ma psy, je vais pas bien. Là, si une sexologue me dit pas comment faire, je ne vais pas y arriver. » Alors qu'en fait, à ce moment-là, il a mis déjà en chacun des individus déjà beaucoup de solutions, de réponses. Ça ne veut pas dire qu'il faut jamais aller consulter, hein, c'est pas ça le propos. Mais être un peu plus confiant dans sa capacité à aller chercher les réponses. Je pense que ça peut être déjà un bon état d'esprit. Donc, comme tu dis, il y a le vouloir faire le travail et se faire aussi un peu confiance.
Oui, complètement. Parce que de toute façon, derrière, c'est la personne qui va vivre ça. C'est pas le praticien qui va vivre à sa place les choses. Et tant mieux. Donc voilà. Donc vraiment, ça, c'est vraiment une question à se poser. Est-ce que vraiment je le veux? Est-ce que je le veux juste pour supprimer la douleur ou la souffrance tout de suite que je vis, parce qu'elle commence à devenir insupportable ou très difficile à porter? Et du coup, si c'est ça, c'est légitime. Mais est-ce que je suis consciente que derrière, y aura peut-être un travail qui va aller un petit peu au-delà, parce que il y a des facteurs, il y a des choses qui déterminent cette souffrance-là aujourd'hui. Elle vient pas de nulle part. Et que c'est un petit peu le rapport. On va pas juste retirer les symptômes, mais on va éviter que justement ça se répète ou que ça se reproduise. Ou si ça se reproduit, avoir des outils pour pouvoir avancer. Ça, c'est la première chose. Donc, est-ce qu'on le veut ou pas? La deuxième chose, déjà quelque chose d'assez simple qu'on peut faire seul chez soi, sans forcément avoir besoin forcément d'autre chose, c'est d'essayer de commencer à, tu vois, tout à l'heure on parlait de ce qui s'est passé, du fruit de nos réflexions, de nos représentations en termes de sexualité, etc. C'est de se poser et de se dire, ok, j'en suis où par rapport à ça? Et d'oser vraiment confronter les choses, même si elles sont pas agréables, même si ça rappelle pas des bons souvenirs, même si on a un petit peu honte de certaines choses, de se dire, c'est ok en fait, c'est ok, c'est pas parce que j'ai eu tel ou tel passé, que j'ai vécu telle ou telle chose, que j'ai entendu, j'ai compris certaines choses aussi, qu'on doit en avoir honte en fait. Faut juste se dire que c'est là. Soit on le confronte, soit on essaie de l'identifier, de le reconnaître. Ça, c'est un premier pas déjà, parce qu'on va se rendre compte de beaucoup de choses. On va se rendre compte de beaucoup de choses et on va se rendre compte que effectivement, c'est peut-être pas aussi bête que ça, en tout cas, d'aller chercher un petit peu au-delà de ma vision là juste aujourd'hui. Et ça, c'est important, parce que parfois je pose certaines questions, etc., quand on parle de ces sujets-là, et les personnes voient pas trop où on veut en venir. Et après, ah oui, mais c'est vrai que j'avais pas fait le lien, mais à tel moment il s'est passé ça, j'ai pris conscience, j'ai pas pris conscience, justement je prends conscience aujourd'hui qu'il y a des liens qui existent. Et ça a l'air un petit peu bateau comme ça, parce qu'on se dit, oui, mais moi, j'ai besoin de solutions pratiques. Oui, mais attendez, petit à petit. Parce que ces choses-là, si on les conscientise pas, elles continuent de travailler, en fait. C'est pas parce qu'on les conscientise pas, c'est pas parce qu'on les identifie pas, qu'elles sont inoffensives, entre guillemets, ou qu'elles sont, qu'elles ont pas d'impact. Donc,
Ouais, bien sûr. C'est ce qu'on se disait un peu en off, c'est que en fait, il faut vraiment avoir cette vision du naturopathe versus le médecin général. On n'est pas là pour parler médecine douce versus ça, c'est un autre débat pour un autre moment, mais l'idée, c'est de se dire c'est vrai que parfois moi la première, hein, quand j'ai une migraine, j'ai qu'une envie, c'est de prendre un Doliprane, tu vois. J'ai pas envie de me poser la question sans temps de Madina, pourquoi est-ce que tu as mal à la tête? J'ai mal à la tête là, tu vois, j'ai mal, je veux une solution, tu vois. Ça, c'est me all day every day, c'est vrai, tu vois. Mais faut aussi avoir conscience que OK, tu peux faire ça, mais sois consciente que ça va pas résoudre ton problème sur le long terme. Donc peut-être que là, oui, quand tu as vraiment trop mal, tu prends un Doliprane, mais une fois que la douleur elle est passée, tu dois prendre le temps de réfléchir à OK, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi j'ai aussi mal? Et puis comment je peux faire pour que les prochaines fois ça se passe plus comme ça? Et ça passe par ce travail un peu plus en profondeur que tu expliques, c'est ça?
Exactement, c'est-à-dire que OK, on prend en charge la douleur, il y a pas de souci. Mais maintenant, soit j'accepte et que ça se passe tout le temps comme ça, et du coup je suis complètement dépendante de ça, ou en tout cas j'accepte que ce soit ce schéma-là, ce cercle qui est mis en place quand j'ai mal à la tête. Soit je commence à me poser des questions sur le terrain, sur mon environnement. Je commence à me dire, ok, est-ce que peut-être qu'à partir de demain, hop, je prends mon agenda et je note les moments où j'ai mal à la tête. Je note ce qui s'est passé peut-être un petit peu avant, ou ce qui s'est passé la veille, ou ce qui s'est passé le matin. Et peut-être que je vais voir comme ça que effectivement dans certains environnements, ou quand je fais certaines choses, ou quand je fais de la route, ou quand je suis professeur et j'ai telle intervention, ou je suis avec des enfants, ou peu importe son travail, ou eh ben il y a des choses qui se passent et qui sont à l'origine de ce mal de tête. Donc une fois que j'ai fait ce travail-là, peut-être qu'après je peux me dire, ok, qu'est-ce que je peux faire petit à petit pour amoindrir déjà ces symptômes-là? Est-ce que je peux me préparer un petit peu? Est-ce que quand je suis face à certaines grosses stimulations pour moi, est-ce que je peux prendre un temps de récupération qui soit vraiment déjà présent et qui soit peut-être un peu plus long, etc., etc. Et ça, c'est fondamental parce que on se rend compte que rien qu'en faisant ça, déjà, on repart dans les choses qu'on s'est dit tout à l'heure, c'est-à-dire responsabilisation, autonomisation. Et derrière, on trouve des solutions finalement parce que voilà, ça veut pas dire qu'on aura plus du tout besoin de médication, c'est pas du tout ça, mais on peut en tout cas faire un travail pour se préserver aussi d'une autre manière en prévention quoi.
Ouais, c'est super beau. Et l'une des alors on a dit déjà vouloir le changement, être prêt au travail que ça va nécessiter et avoir aussi la conviction que ce travail il payera en fait. C'est-à-dire que c'est vrai que parfois aussi pour donner un peu du courage aux gens, il faut rappeler que certes tu bosses, mais c'est pour quelque chose d'agréable après. C'est bien pour ça qu'on est sur Terre, hein, c'est tout le projet même. et puis de faire face peut-être effectivement à sa réalité, aller un peu chercher en profondeur qu'est-ce qui fait qu'on réagit comme ça. Et une des choses aussi que tu avais dites précédemment, enfin dans notre première interview que j'avais trouvé très intéressante, c'était d'arrêter de se comparer aussi. En fait, de vraiment avoir conscience pour aller mieux et pour se réapproprier justement son intimité, sa sexualité, que c'est pas celle du voisin, c'est pas celle de la tante. Et donc il faut vraiment aller creuser le qu'est-ce que moi j'aime, qu'est-ce que moi je veux, qu'est-ce que mon conjoint veut, et puis comment on fait pour faire quelque chose qui nous ressemble.
Oui ouais, tout à fait. Mais subhanallah, en tout cas dans ce que tu dis, il y a beaucoup de choses. Et par rapport à la comparaison, je pense que c'est un petit peu en même temps peut-être intrinsèque à l'être humain, j'ai l'impression. Mais peut-être que on pourrait modifier certains paramètres pour que cette comparaison, en tout cas, elle vienne pas nous tuer à petit feu, et surtout conscientiser le fait que vous connaissez pas la réalité des choses, vous savez pas ce qui se passe réellement entre ce que dit un tel, ce que dit l'autre. Non, en fait. Il y a souvent un monde entre déjà ce que les gens disent et ce qui se passe. Et quand bien même ce serait le cas et que ce serait vraiment fidèle à la réalité, vous ne savez pas ce qui a déterminé ça. Vous ne savez pas les facilités ou les difficultés des gens, etc. Donc ça, c'est une première chose. Et surtout, ça ne va pas du tout avancer si vous, de votre côté, si c'est pour vous inspirer ou pour vous dire, ah bah tiens, c'est possible de faire autrement, bah tant mieux. Tu vois, mais si c'est pour se dire ah bah voilà, mais comme on disait tout à l'heure, rentrer dans un rapport de fatalité, ah bah moi c'est pas le cas, donc ce ne sera jamais et tout, bah non. Non, et c'est plus délétère qu'autre chose et ça sert à rien. Mais par contre, t'as dit quelque chose de très 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 important en fin de discours, c'est qu'il nous ressemble. Ça c'est hyper important. Ça c'est très important parce que ta sexualité, il faut qu'elle te ressemble. Enfin, la sexualité que tu as, il faut qu'elle vous ressemble à vous deux en tant que couple et en tant que personne. Et ça, c'est important parce que même sans parler de comparaison à autrui, dans une vie, la sexualité, elle évolue et elle change aussi. Donc, ça sert à rien aussi de tout le temps comparer à avant ou à 3 ans avant, etc. Et il faut accepter que, en tant qu'être humain, bah, forcément, on évolue, ça, on a plus de facilité c'est plus palpable, mais tu évolues en tant qu'être humain, donc il y a des choses qui étaient peut-être ok pour toi avant qui ne le sont pas et qui le seront peut-être à nouveau. Et ben, c'est aussi la même chose en termes de sexualité. Et du coup, ça, c'est important. C'est pour ça que, c'est pour ça aussi que, attention aux conseils, chercher à tout prix, parce que tu as une problématique, chercher à tout prix à, je sais pas, moi, faire des raccourcis en, voilà, pimenter sa vie sexuelle, voilà, il faut qu'on fasse ça, il faut, attendez, avant d'employer, toutes ces choses-là, on va dire, qui vont être secondaires, est-ce qu'on peut se reposer la question des fondamentaux, de l'écoute, du dialogue, de la compréhension, dans même la relation sexuelle, parce que c'est une, moi je parle souvent de connexion sexuelle, parce que c'est un moment où on est en connexion, peu importe ce qui se passe. Et bah, pour qu'il y ait une bonne connexion, bah il faut aussi retirer le bruit qui est à côté. Et parfois justement, ces conseils un petit peu très rapides, pratico-pratiques, etc., voire même très stigmatisants, voire même très stéréotypés, bah ils conviennent pas à tout le monde en fait. Ils conviennent pas à tout le monde. Et peut-être qu'on risque plus d'aliéner les gens en leur disant tout le temps ce qu'ils doivent faire et comment ils doivent le faire, plutôt que, justement, à se poser des questions un peu plus profondes. Parce que derrière, pareil, c'est pas... Moi, je veux pas que les personnes aient la vision de la sexualité que moi, je veux avoir pour la mienne, mais plus qu'elles aient leur vision. Et OK, s'il y a des petites choses, effectivement, on essaie de voir s'il y a des petits blocages à certains niveaux, bah, comment est-ce qu'on peut travailler dessus. Mais derrière, c'est un être humain qui a sa légitimité, qui a sa place en tant que tel. Et du coup, l'objectif, c'est pas de reproduire ce que moi, j'ai envie pour elle. Enfin, ça aurait aucun sens.
Donc, ouais, ça n'a pas d'intérêt. Mais c'est franchement, c'est passionnant et t'as couvert trois sujets que je souhaitais aborder par la suite. Donc franchement, c'est vraiment assez génial. Mais je voulais juste m'arrêter sur un terme. Tu as parlé de se réapproprier en fait son intimité, sa sexualité, et je trouve que c'est très 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 important et extrêmement pertinent. Et en fait, je dis souvent à une amie que en fait, moi, j'ai le sentiment qu'on nous a un peu volé quelque part notre sexualité à force de la placarder partout, à force de nous dire il faut faire ci, il faut faire ça. Et c'est ça aussi, à mon avis, qui fait qu'on les couples sont pas toujours épanouis dans ce pan-là de leur vie. C'est parce que on a vraiment oublié de se poser la question de qu'est-ce que je veux pour moi en fait. Quelle fréquence m'intéresse moi, quelle fréquence est agréable pour mon couple, parce que je dis toujours moi, mais en réalité c'est vrai qu'il faut penser à deux, il faut penser team spirit. Mais je te remercie parce que t'as vraiment mis le doigt, je pense, sur quelque chose qui est extrêmement important, c'est se réapproprier les choses en fait.
Oui, et en fait pareil, je pense que ça fait partie aussi de quelque chose qu'on a plus de facilité à, tu vois, naturellement se poser cette question-là pour les choses de la vie, tu vois, quotidienne, pour son évolution, que ce soit professionnelle, que ce soit même son rapport à Dieu, etc. On se rend compte que bah, parfois, on peut pas tout le temps être dans une comparaison ou bien copier ou bien exactement essayer de faire pareil que ce que tu vois à droite à gauche, parce qu'il faut que tu crées ta propre relation aussi à Dieu. Et c'est ça aussi qui reste fondamental, parce que c'est aussi sur ça que... Bah, que tu, enfin, déjà que tu vas puiser des ressources, et aussi ouais, sur lesquelles, enfin, Allah t'attend en fait derrière. Donc voilà, mais c'est bizarre parce que du coup on a l'impression que la sexualité, du coup, c'est vraiment ce sujet, cette petite boîte complètement à part. Et c'est pour ça que tout à l'heure en début je te disais oui, c'est parfois simple et en même temps parfois complexe, mais faut pas le compliquer. C'est que, dans beaucoup de choses, finalement, on se rend compte que on a ce type de raisonnement-là dans la vie au quotidien. Maintenant, il faut se rappeler que la sexualité, ça fait aussi partie de soi, c'est aussi une dimension qu'on a en nous, et que du coup, bah, pareil. Donc, oui, se la réapproprier complètement. Mais pour se la réapproprier, il faut pouvoir s'autoriser à se poser certaines questions, s'autoriser à ressentir certaines émotions. Et à s'autoriser à penser différemment de tout ce qu'on a vu aussi, tout ce qu'on s'est dit, tout ce qu'on a pu entendre, etc. Okay. Mais c'est intéressant ta vision de voler la sexualité qui est volée par rapport à...
Bah, moi, j'ai l'impression qu'on nous dit, mais tu sais, tu disais que c'était, quelque part, on avait externalisé ça et qu'il faut le réinternaliser et qu'il faut se remettre au centre de ses décisions, comme pour tout. Mais je pense profondément qu'on vit une ère où on n'est pas au centre de nos décisions pour beaucoup de choses. Hein, tu vois, on gravit les échelons, par exemple, de sa boîte parce que bah, c'est comme ça. Il y a toute une réappropriation, à mon sens, hein, qu'il faut faire dans sa vie en général. Et je pense que pour le coup, effectivement, la sexualité, c'est un peu le dernier truc qu'on va aller chercher. Mais que dans tous les cas, cette réappropriation, elle est nécessaire. Elle est nécessaire dans chaque pan de sa vie, en fait, tout simplement. J'aimerais qu'on aborde la question de l'évolution de l'intimité, parce que ça, c'est un sujet aussi qui revient parfois avec des proches. C'est comment tu fais, tu le disais justement, ça évolue, et tu as bien fait de se dire, au-delà de pas se comparer avec les autres, il faut pas se comparer avec son soi d'il y a 5 ans. Comment tu fais pour accueillir le changement dans ton intimité au sein du couple?
C'est ta question, elle est magnifique. Déjà ça, on peut s'arrêter sur ça. Mais déjà, tu vois, il y a cette vision où on dit la sexualité, tu sais, on pense sexualité égale sexe, égale naturel, égale biologique, pardon, égale naturel. Donc, on a cette perception de se dire, normalement, ça devrait fonctionner. Et c'est pour ça qu'on, tu sais, il y a un petit peu cette petite boîte à part, on se dit, c'est un petit peu la petite boîte à part, parce qu'on se dit, ça coule de source, ça roule tout seul, et on n'a pas besoin de venir, en fait, se poser 50 000 questions. Et on se rend compte qu'en réalité, c'est finalement le contraire qui se passe. Et du coup, c'est aussi pour ça, peut-être, que derrière, quand il y a la question du changement, tu vois, qui se pose, que ce soit de manière concrète ou explicite ou pas, tu vois, eh ben, on sent un inconfort et on commence à se dire, mais pourquoi? Pourquoi ce changement? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il y a quelque chose que je fais mal? Est-ce que... Mais non, en fait. Il y a des choses, en fait, qui se... Et ça, faut aussi l'intégrer, c'est que c'est pas du tac au tac, d'accord? Tu as besoin aussi de temps pour ingérer certaines informations. Dans ta vie, il y a énormément de choses qui se passent. Il n'y a pas que ta vie sexuelle, il n'y a pas que ta vie de couple, il n'y a pas que ta vie professionnelle ou slash activité que tu peux avoir ailleurs. Dans tout changement, en fait, il y a un lot d'apprentissage aussi derrière. C'est-à-dire que tu vis certaines choses. S'il y a un changement qui est extérieur à toi, tu vas apprendre des choses de ce changement-là. Peut-être que tu vas voir si ce changement, tu vas peut-être te poser aussi certaines questions. Est-ce que ça te convient? Est-ce que ça te convient pas? Est-ce que tu vas laisser la place dans ta vie à ce changement-là ou pas? Et si c'est toi qui vas être à l'origine de ce changement-là, parce que tu en as besoin, s'il est là, il est en quelque sorte, légitime. D'accord? Et du coup, comment tu vas intégrer ce changement-là dans ta vie sexuelle? J'entends ta question, c'est comment est-ce que les changements qui peuvent arriver aussi au niveau sexuel ou de ta sexualité, tu peux l'accepter, etc. Bah, peut-être essayer de le comprendre. Pourquoi est-ce qu'on en est là aujourd'hui? Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui, peut-être j'ai moins envie? Tu vois, se poser vraiment des questions, c'est pas juste comment ça se fait que ça fonctionne pas comme d'habitude, mais juste se dire... qu'est-ce qui ne fonctionne pas comme d'habitude et comment ça se fait que j'ai ce sentiment-là que ça se passe pas comme d'habitude? Est-ce que c'est parce que tu parlais tout à l'heure de fréquence, j'ai moins envie? Est-ce que quand j'ai envie, j'ai peut-être en termes d'intensité moins envie? Finalement j'ai toujours eu ça ou pas? Est-ce que comment je me sens dans ma relation avec mon partenaire, avec ma partenaire? Et tout ça, ça, encore une fois, ça nous donne des informations. Ça nous donne des informations et peut-être qu'on peut se dire qu'on n'est pas, tu vois, à être... tout à l'heure, je parlais de se confronter à soi. C'est vrai que dans le terme de confronter, c'est assez fort. Mais on pourrait se dire qu'on ne va pas au combat avec soi-même à chaque fois qu'il y a des changements dans sa vie. Peut-être d'accepter qu'il y a des choses qui changent parce qu'on a un être qui avance, qui évolue, qui parfois recule et c'est OK. Mais derrière, de se dire OK, qu'est-ce que j'apprends de ça? Qu'est-ce que ça peut me dire? Et là, peut-être qu'on va faire des liens. Bah oui, peut-être que j'ai peut-être moins de libido parce que la qualité de ma relation, elle est pas aussi au beau fixe. Peut-être que au contraire, j'ai subi un gros stress extérieur et que derrière, voilà. Peut-être que oui, peut-être que je me suis toujours définie, je dis vraiment des motifs au hasard là comme ça, hein, mais je me suis toujours définie en tant que être complètement sexuelle et pas juste et peut-être moi en tant que femme qui aussi a d'autres aspirations, a d'autres centres d'intérêt dans sa vie et du coup qui va se définir différemment. Donc tu vois, selon la personnalité, l'histoire de chacun, bah en fait, il y aura toujours des changements, mais par contre derrière, ce qui va être crucial, c'est de se dire juste OK, il se passe ça, bah c'est OK que ce soit différent aujourd'hui. Mais par contre, ce qui serait peut-être un peu moins OK, c'est de vivre les choses comme une fatalité et de laisser justement, même si le changement ne va pas dans un bon sens pour toi, de se dire ouais, bah c'est comme ça hein, voilà, on n'a plus 20 ans, on n'a plus telle ou telle chose, et là ça commence à devenir un petit peu bancal, parce que ça veut dire qu'on justifie pas ces changements par des choses qu'on veut légitimer dans sa vie, ou on veut laisser justement ce changement prendre cette place-là, mais c'est plus quelque chose qu'on subit. Et c'est ouais. OK qu'à certains moments on subit certaines choses et qu'on comprenne pas tout, mais encore une fois la question, c'est est-ce qu'on a envie que ça reste comme ça ou pas.
C'est ça. Mais c'est exact. Enfin, tu vois, c'est la conversation peu ou prou que j'avais avec une proche, parce que je disais, mais en fait, effectivement, je pense que tu vois, quand t'as une grossesse, quand ton corps y change, quand après tu accouches, t'es pas forcément à l'aise avec ton corps, ou bah du coup il y a un petit être parfois qui dort avec vous, si vous faites du cododo, tout ça peut vraiment complexifier les choses. J'avais le sentiment que il faut accueillir ce changement-là en se disant bah de toute façon il y a des moments où effectivement il faut s'accorder de la grâce hein, on peut pas être au top tout le temps, mais par contre de se dire ça ne durera pas, ok je l'accepte, mais ça ne durera pas, et avoir l'intention, mais vraiment l'intention dans sa tête de se dire ça durera pas, parce qu'en fait j'ai quand même le sentiment que vraiment comme on le disait, en fait l'intimité c'est un peu le dernier pan de sa vie, donc on peut vite le laisser nous glisser entre les doigts, en fait on se dit non mais je m'en occuperai après. Et en fait, si t'as pas dans ta tête l'intention de toujours le garder dans ton champ de vision, ah bah tu me vois plus quoi. Ça peut partir hyper vite. Et je me dis que quelque part aussi, cette évolution là, si tu veux marcher avec ton évolution, il faut se donner d'un côté de la grâce et d'un côté aussi toujours le garder dans son périmètre de vision. C'est-à-dire ok, là il est un peu loin de mon champ de vision, ok. Comme un enfant qu'on surveille, d'accord, mais va pas trop loin non plus, quoi. Parce que si tu pars, moi, je vais vraiment potentiellement, je vais pas dire que tu le retrouveras plus jamais, l'intimité, c'est pas ça, mais tu peux derrière te mettre dans des situations où ça va être très compliqué d'aller te la réapproprier.
Oui, et quand bien même il y a certaines choses peut-être qui sont sur pause, faut aussi redéfinir c'est quoi l'intimité sexuelle, parce que il y a peut-être des choses dont on n'a pas envie à certains moments de sa vie, mais d'autres choses qui pourraient être ok. Et qui font partie, en fait, de la vie sexuelle aussi, de la vie intime, tu vois.
Ah, tu m'offres une transition, là, Diana. Je suis obligée de t'arrêter là. Parce que ça allait être une de mes dernières questions. Est-ce qu'on peut offrir aux personnes qui nous écoutent une définition, en fait, de l'intimité sexuelle? Pourquoi? Parce que on a quand même souvent l'impression que intimité sexuelle ou connexion sexuelle égale rapport. Et en fait... de ce qu'on j'ai pu comprendre, de ce que j'ai pu entendre, ça commence bien plus tôt. Est-ce que tu peux un peu nous offrir un champ un petit peu plus large, parce que je pense que ça aussi ça permettra peut-être aux personnes qui nous écoutent de se dire mais bah si en fait j'aime bien l'intimité sexuelle, si l'intimité sexuelle ça comprend ça j'aime bien ça, et donc oui. Bah je vais plutôt aller rechercher ça, tu vois.
Oui, alors déjà souvent ce qui est fait, c'est que on se dit que sexualité égale, alors sexualité égale sexe égale pénétration égale rapport. Quand on parle de rapport sexuel, en général, on entend avec pénétration, d'accord. D'ailleurs, quand on parle de première fois, souvent on parle de première fois avec pénétration. Les gens ne considèrent pas avoir fait leur première fois sans pénétration. Ce qui pose un autre problème, c'est que du coup, derrière, il y a beaucoup cette notion de virginité, pas virginité. On confond aussi les noms de chasteté, virginité. Donc, en fait, il y a plein de choses qui se mélangent. Et nous, je le rappelle, la chasteté, c'est quelque chose de plus large que la virginité en soi. Aujourd'hui, la virginité, si on entend virginité, c'est pas de pénétration, par exemple. Bah, ça veut dire que indirectement, on définit la sexualité comme égale pénétration, d'accord ? Et du coup, première fois égale ça. Sauf que du coup. Aujourd'hui, quand on parle de chasteté, c'est vraiment garder ce comme tu disais là, cette chose en termes de connexion sexuelle pour son partenaire, la personne avec qui on, voilà, on souhaite se marier, etc., vivre sa vie. Et du coup, par rapport à ça, ça comprend toutes les choses au-delà de la pénétration, d'accord ? Donc, on reste pas que dans quelque chose de... On l'entend bien, c'est-à-dire qu'on sait que au niveau relation homme-femme, etc., il y a des règles à respecter, il y a des... Voilà, ça rentre dans le cadre de ses convictions. Et du coup, tu vois, déjà juste dans ça, on voit que au niveau des représentations, bah si après on se dit que sexualité, bah c'est forcément avec ça dedans, dans le package, bah déjà, voilà, c'est pas toujours possible, c'est pas... tu parlais de femmes qui ont accouché même après la période... post-accouchement, etc., après les 40 jours, bah, il y a aussi des choses peut-être qui se mettent pas toujours en place ou qui sont peut-être un petit peu difficiles, etc. Mais on n'est même pas obligé de parler, d'aller jusque-là, tu vois. Ça, c'est important parce que j'ai pas envie qu'on se dise que ça, c'est l'exception et que derrière, ça veut dire que tout le reste, bah, c'est OK. Non, c'est de se dire la sexualité, et c'est pour ça que moi, je parle plus de relations sexuelles ou de connexion sexuelle parce que dedans, il y a la notion de... on est ensemble, on est à deux. Il y a la dimension relationnelle, du coup, il y a la dimension émotionnelle qui est impliquée. Et du coup, c'est pas juste un acte dans la sexualité qui réduirait justement cette notion de la sexualité. Ça veut dire que tout le sexe aussi non pénétratif, toutes les choses finalement, parce que là on parle quand même, on reste dans la notion de connexion sexuelle, etc. Mais avant même qu'on soit dans cette notion-là, même quand on le conscientise pas comme ça, au quotidien, il y a une connexion qui se fait aussi. Il y a une connexion qui se fait avec son partenaire, sa partenaire. Et du coup, c'est ça qui va aussi préparer la suite. C'est pour ça aussi que si souvent, quand ça se passe pas bien au niveau relationnel, bah ça se passe un peu moins bien derrière. Et ça, c'est important parce que ouais. C'est vrai qu'on avait aussi parlé de... La dernière fois, tu m'avais... demander est-ce que les hommes ont vraiment plus envie, etc. Il faut comprendre que c'est vrai que au niveau hormonal, notamment grâce à la testostérone, qu'on a aussi hein, nous les femmes, mais qui est du coup beaucoup plus présente chez les hommes, ça va en fait faire office de booster, on va dire, de motivation, on va dire au niveau biologique, il y a des choses qui se passent effectivement au niveau de l'homme, mais pas que. Parce que ça, c'est important. Et ça dépend aussi en fonction de chaque homme. C'est-à-dire qu'il y a ça, d'accord, hormonalement, où il y a une certaine prédisposition, une certaine détermination par rapport à ça. Mais après, en fonction de sa personnalité, son histoire, etc., ben, on a besoin de plus. Et d'ailleurs, parce que souvent, on se disait, la notion du devoir conjugal, parce que l'homme a forcément plus besoin, etc., encore une fois, je me pose la question, est-ce que, en tant que célibataire qui n'a pas, du coup, été en couple ou qui n'a pas eu de relation avant, est-ce que vraiment, les femmes n'ont pas de cette disposition, cette prédisposition à se projeter aussi sexuellement dans la connexion intime avec son conjoint? Je crois pas, même si, voilà. Mais la femme, elle va avoir peut-être d'autres étapes, même si il y a une partie qui va être hormonale, forcément, notamment avec le cycle, etc. Mais il y a aussi tout ce qui va arriver avant, c'est-à-dire au niveau relationnel, qui va venir déterminer si on a envie ou pas derrière. Donc, et c'est pour ça qu'on remarque...
Ouais. Pardon, je t'interromps juste un instant, mais tu vois, quand tu parlais des hormones, il y a deux choses qui me sont venues en tête. La première, c'est que il me semble que les hommes aussi peuvent avoir des dérèglements hormonaux. C'est-à-dire qu'en fait, on se dit, un homme, il a de la testostérone, ça veut dire que un homme, il aura forcément envie. Mais on en parlait la dernière fois, un homme aussi, quand il a le stress du travail, quand il se sent pas bien,
il a
ce dérèglement-là. Et c'est hyper important, mais faut le rappeler, parce qu'en fait, nous, en tant que femmes, on entend beaucoup la ménopause, mes hormones, elles me travaillent. On sait qu'on est, je vais pas dire soumise, mais en tout cas, on a un cycle menstruel qui, clairement, parfois, fait sa vie. Et nous, on est un peu tributaire de la vie qu'il mène. Mais en fait, il faut parfois, je pense aussi, se rappeler que les hommes aussi ont des hormones. Et donc forcément, qui dit hormones dit parfois aussi des règlements hormonaux. Et parce que autant on entend souvent que la femme, elle a pas trop envie ou elle a moins envie. Et ça a aussi des conséquences sur les hommes qui parfois eux ont moins envie parce qu'on se dit bah lui il est vraiment pas normal, mon mari je comprends pas, il a pas envie, ça veut beaucoup. Dire que je suis pas assez, alors qu'en fait il faut aussi donner de la grâce à ces messieurs qui peuvent aussi être soumis avec des gros guillemets, hein, enfin qui peuvent être impactés par un dérèglement hormonal lié au problème de travail, à une libido qui est déréglée, etc. Libido étant très liée à l'esprit et c'est pas que
mécanique. Et attention parce que même quand on dit déréglé, ça sous-entend que forcément derrière presque on va être dans le pathologique, etc. Alors que non, en fait. Et c'est ça le truc, on peut pas être au beau fixe entre guillemets tout le temps ou à se dire que c'est toujours de cette manière-là. Non, il y a des moments où on a moins envie et c'est pas forcément juste un dérèglement, c'est juste que on n'a pas envie, que on faut respecter ça et que derrière il y a des causes à ça, mais que ça fait partie de la vie. Je sais pas, moi, demain ton dessert préféré, parfois il y a des moments où peut-être tu seras plus apte à l'apprécier, mais si vraiment ça se passe, alors ça dépend des personnes. Par exemple, si toi ça se passe très mal au travail et que on te propose ton dessert préféré, peut-être que tu vas te dire non, c'est quel gâchis, je vais même pas l'apprécier, je suis complètement ailleurs. Tu vois. Et peut-être que pour une autre personne, au contraire, bah, il y aura tellement ce besoin de défouloir, entre guillemets, ou en tout cas de récompense, ou de, voilà, que se dire, ah bah oui, c'est exactement ce dont j'avais besoin pour aller un petit peu mieux et pour m'aider dans la transition vers le mieux, tu vois. Donc, c'est pour ça que chaque personne est différente. Et encore une fois, si on parle de facteurs qui déterminent la libido, c'est pas parce que peut-être que chez l'un, le facteur biologique va être plus fort, au niveau hormonal, etc., que ça veut dire que chez l'autre, il n'y a pas d'autres facteurs qui peuvent aussi bien conditionner ça. Et ça, c'est important, parce que souvent, on a l'impression qu'on se dit « Oui, mais les hommes, du coup, hormonalement, etc., oui, il y a des choses qui font que... » Mais attention, est-ce que on peut s'intéresser aussi aux choses qui font que pour la femme ? Même si c'est pas toujours hormonal, parce que pour la femme, on se rend compte que la qualité relationnelle, on se rend compte, il y a des études aussi qui sont faites par rapport au partage des tâches à la maison, par exemple, et dans la manière dont on se sent, considérée, respectée, etc. Pour une femme, et ben ça va, c'est ça qui va davantage trigger, on dit, qui va souvent, stimuler cette envie-là. Ce désir la sexuelle.
Ouais, bien sûr.
Ça c'est très important.
Oui, parce que c'est extrêmement important et ça qu'il faut le rappeler. Les femmes souvent elles en ont conscience, mais peut-être pour les messieurs qui passeront par là, il y en a pour qui c'est pas clair ce truc de donc parce que je t'ai pas aidé à faire la vaisselle quand je veux une connexion intime, après tu me dis non. Pourquoi? Bah parce que elle a pas eu ce sentiment d'être soulagée, d'être comprise, et donc forcément il y a l'ocytocine, l'hormone de l'attachement, qui n'a pas eu le temps vraiment de se produire et qui fait que bah derrière oui t'as pas envie, mais en fait se dire j'ai pas envie, c'est pas juste un caprice de j'ai pas envie, c'est que il y a quelque chose qui a pas le terrain n'a pas forcément été préparé avant. Et je pense que tu vois, en discutant avec toi, je réalise que ça aussi, c'est peut-être quelque chose qu'il faut qu'on comprenne. En tout cas, que moi, je viens de comprendre. Se dire, c'est pas parce que t'as pas envie que t'aimes pas. C'est pas la même chose. J'ai pas envie, j'aime pas. C'est pas du tout la même chose. Et on a tendance, j'ai l'impression, quand on parle d'intimité, à se dire, comme j'ai pas envie, ça veut dire que j'aime pas. Okay. Non. Mm-hmm. T'as peut-être pas créé le foyer, le terrain, qui fait que tu vas avoir envie. Mais j'ai pas envie et j'aime pas, c'est très différent en réalité. Et il faut vraiment scinder les deux, quoi.
Oui. Mille fois oui, j'ai rien d'autre à rajouter par rapport à ça, c'est clair et net. Et toujours analyser, entre guillemets, alors justement pour les femmes en général, on leur dit de moins analyser, d'être plus dans le moment présent, mais en tout cas quand vous faites ce travail-là, de vraiment voir est-ce que vraiment c'est ça. Parce que moi, par exemple, j'ai beaucoup le retour de femmes qui se posent même la question, parce que c'est de lire des articles, de se renseigner forcément, est-ce que je suis pas asexuelle ? C'est-à-dire, est-ce que je ne suis pas finalement déjà déterminée à ne pas avoir envie de relations sexuelles, comme ça peut être le cas de certains êtres humains ? Mais le problème, c'est que si tu vois le nombre de personnes, de femmes qui pensent être dans cette situation, c'est pas possible en fait, c'est pas ça. C'est non, d'accord ? Donc on va écarter cette piste en général, on l'écarte de suite, parce que derrière, on se rend compte que bah, y a énormément de tensions dans la vie affective, relationnelle de cette personne-là, et que du coup, quand on travaille sur ces tensions-là, automatiquement, ça va mieux derrière. Ça me fait penser à une jeune femme que je suivais et qui me disait en fait, pas du tout d'envie, etc. Et en fait, on se rend compte que son mari lui dit « Mais dis-lui à ta sexothérapeute que pendant les vacances, ça se passe très bien. » Et c'est vrai que pendant les vacances, elle se rendait compte que pendant les vacances, dans sa vie, eh ben, ça se passait très bien au niveau sexuel. Il n'y avait pas de douleur. Il y avait du plaisir. Voilà. Et tu vois, alors que peut-être que la lecture de base, c'était non, j'ai pas du tout envie et franchement, je m'en passerais bien. Mais finalement, donc c'est important de vraiment re-questionner, ok, comment est-ce que je fonctionne dans ma vie au quotidien? Comment est-ce que, quelles sont les choses qui vont plus me stimuler ou pas? Qu'est-ce qui va au contraire commencer un petit peu à m'éteindre ou à me tendre petit à petit par rapport à plein de choses? Quelle est la qualité relationnelle que j'ai avec mon partenaire? Est-ce que dans la vie de tous les jours, je me sens écoutée? Est-ce que moi, j'écoute? Est-ce que la personne en face de moi se sent écoutée? Est-ce que quand on s'écoute, est-ce qu'on se comprend? Parce que toutes ces choses-là, elles vont créer des nœuds petit à petit. Et c'est vrai que ces nœuds-là, en général, ils vont être beaucoup plus, en termes d'impact, beaucoup plus gros au niveau de la sexualité, j'entends, pour la femme, de manière directe en tout cas, que pour l'homme. L'homme, ça va être peut-être un peu plus indirect du coup par rapport à son épouse. Mais c'est pour ça que faut vraiment pas se tromper, faut pas mettre, tu vois, hormonalement les choses comme si c'était la toute puissance et derrière tout le reste c'est secondaire. Non, 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 parce que on se rend compte que c'est pas du tout le cas.
Non, non, bien sûr, puis d'une personne à l'autre, c'est pas le cas. Mais de ce que je retiens, parce qu'on a commencé à par qu'est-ce qu'une connexion sexuelle, en fait, ce qu'il faudrait, si on devait résumer, en tout cas, c'est que, en tout cas, évidemment, une connexion sexuelle ne se réduit pas au simple rapport, que l'intimité sexuelle est bien plus vaste que la mécanique, que l'intimité sexuelle, c'est pas que les organes reproductifs. Il y a du psychique, il y a du spirituel, il y a d'autres membres qui sont concernés. Certains disent que le cerveau c'est le premier organe sexuel. Il y en a qui disent que c'est le cœur. Donc voilà, avoir vraiment en tête que faut checker tous ces points-là et faire en sorte que tous ces organes-là vivent en harmonie pour que derrière la connexion sexuelle puisse être optimale. Puis retenons aussi que la sexualité ça concerne très 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 peu de gens, donc retirons vite cette éventualité là pour aller vraiment rechercher le fond de la problématique pour justement aller chercher des solutions, en fait, parce que c'est ça le but, et une nouvelle perception.
Oui, et ces perceptions, on n'a pas besoin d'être en couple ou marié déjà pour se les poser. Ça c'est important de se poser déjà, commencer à se poser ces questions là avant, pour justement déjà commencer à faire le tri, commencer à se poser la question de ok, qu'est-ce que j'ai là, qu'est-ce que j'ai pu identifier comme blocage, comme choses avec lesquelles je suis peut-être un peu moins à l'aise, avec lesquelles je suis ok, etc. Et est-ce que parmi toutes ces choses là, qu'est-ce que j'ai envie de garder ou pas? Ça permet déjà d'avancer petit à petit sur ce cheminement et de pas attendre, on va dire, de pas être soumis à justement à quand est-ce que je vais rencontrer l'autre et à partir de ce moment-là, une fois que je l'aurai trouvé, je pourrai me poser des questions.
Hyper pertinent et très très à propos. Pour terminer un peu cette conversation, Diana, j'ai une question. Est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer quels sont mais finalement les avantages pour l'esprit, pour soi, pour son couple, à préserver une bonne connexion intime? Pourquoi c'est important? Pourquoi c'est bien?
Eh ben, c'est important pour plein d'autres choses, pour plein de choses, mais l'importance après, elle est aussi à déterminer en fonction de qui tu es et de la place que ça a dans ta vie. Par exemple, je sais pas si tu te souviens, dans la formation qu'on avait fait ensemble, on avait parlé de différents types de plaisir. En fait, dans la relation sexuelle, il n'y a pas que du plaisir sexuel. Le plaisir sexuel fait partie d'un des plaisirs, d'accord? Que ce soit le plaisir sexuel tout court ou jusqu'à l'orgasme, etc. Ça fait partie des bonnes choses. Et il y a, tu vois, toutes ces hormones-là, si on parle de choses concrètes, toutes les hormones, l'ocytocine, la vasopressine, etc., qui créent un énorme bien-être déjà, vraiment physique pour le coup, de relâchement, de un petit peu, tu vois, se trouver connecté avec son partenaire, mais aussi derrière, profiter ensemble de certaines choses et du coup trouver un peu d'apaisement, un petit peu de retrouver un petit peu de cette rahma-là finalement en partie. Dans cette connexion-là. Donc déjà, ça, c'est une première chose. Mais après, comme je te disais, il y a plusieurs plaisirs. Il n'y a pas que le plaisir sexuel. Il y a tous les bénéfices du plaisir sexuel, mais il y a tout le reste. Il y a le plaisir de faire plaisir, le plaisir de recevoir soit du plaisir et juste mentalement de se représenter que derrière, il y a quelqu'un qui est là et qui est intéressé et qui veut finalement contribuer à cette relation, à ce relationnel par effectivement la sexualité et par d'autres choses aussi. Donc, on se repositionne déjà en tant qu'être sexué, d'accord, en tant que femme, en tant qu'homme, dans les yeux d'un homme ou d'une femme. Donc, ça contribue déjà à renforcer un petit peu. Je dis contribue parce qu'il faut pas que ce soit complètement dépendant de ça. Son identité à soi dans le couple, en tant que femme, en tant qu'homme, en tant que je sais pas moi, Madina, Khadija, enfin Olivier, ce que tu veux. Donc en tant que soi aussi, ce pourquoi aussi on a été choisi, et pas que dans la relation sexuelle. Et c'est pour ça que dans cette relation-là, c'est important qu'on soit deux sujets et pas juste l'objet, un objet de l'un ou de l'autre. Et ça refait un petit peu le pont par rapport à ce qu'on se disait en termes de rapport de force, etc. Pourquoi c'est pas sain. Donc tout ça, c'est des choses qui sont importantes. Et c'est vrai que souvent on entend, ça renforce le couple, etc. Oui, mais faut pas qu'il y ait que ça non plus. Ça fait partie des choses qui contribuent à renforcer cette connexion. Et c'est dans ce sens-là, plus cette connexion-là sera bonne, c'est-à-dire qu'on va apprendre ensemble. Ça, c'est important. Ça ne vient pas naturellement. Ça va pas être du tac au tac. Faut aussi se le mettre dans sa tête. Donc c'est un apprentissage qu'on fait ensemble. Et comme ça vous semble logique à beaucoup de couples de se dire, on va évoluer dans la religion ensemble, on va évoluer spirituellement ensemble, dans tout le reste. Et ben ça aussi, c'est aussi un axe dans lequel on évolue ensemble, on apprend ensemble. Et c'est en ça que c'est aussi beau, tu vois. Même si il faut pas que ça dépende que de ça. Et que derrière, y a tout un terrain à préparer.
C'est magnifique. Je te remercie vraiment beaucoup, Diana. Moi, je voudrais profiter de notre conversation pour citer un hadith qui souligne la haute valeur et l'importance et les récompenses liées aux relations intimes. Je commence. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. D'après Abu Dhar, des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, donc bénédiction et salut soit sur lui, ont dit à celui-ci, les riches se sont accaparés de toutes les récompenses. Ils prient comme nous, ils jeûnent comme nous, et en plus, ils font des aumônes avec le surplus de leurs biens. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur répondit, Allah ne vous a-t-il pas donné de quoi faire des aumônes? Toute tasbiha, le fait de dire gloire à Allah ou subhanallah, est une aumône. Toute takbira, donc le fait de dire Allahu Akbar. Toute tahmida, le fait de dire alhamdulillah. Et toute tahlila, le fait de dire la ilaha illallah, sont des aumônes, comme le sont le fait d'ordonner le bien et d'interdire le mal et les rapports sexuels. Ils dirent, ô messager d'Allah, l'un de nous pour obtenir une récompense du simple fait d'assouvir ses plaisirs charnels. Il leur dit, ne voyez-vous pas que s'il les assouvissait illégalement, il commettrait un péché. C'est pourquoi il est récompensé pour s'être contenté de ce qui est légal, rapporté par Muslim 1674. Je rajoute un petit commentaire de texte. Ce hadith indique que les actes licites peuvent se transformer en actes de dévotion grâce à la bonne intention. L'acte sexuel possède une valeur cultuelle quand il est accompli avec l'intention d'acquitter le droit de l'épouse, de lui assurer ou de l'époux, et de lui assurer le bon traitement ordonné par Allah le Très-Haut, ou avec le désir d'avoir des enfants pieux, ou de se protéger, ou de protéger son épouse ou son époux, de façon à ce que les conjoints ne regardent pas ce qui est interdit, n'y pensent pas et ne s'en soucient pas. Alhamdulillah. Je crois que c'est toujours important dans ce genre d'assises, de conversation, de nous rappeler que on peut parler ici pendant une heure et demie, deux heures, mais rappelons-nous toujours que on en parle parce que Allah subhanahu wa ta'ala lui-même nous a dit que c'était une amana. On n'a rien inventé. C'est ça le propos. On n'a rien inventé. Allah subhanahu wa ta'ala nous le dit lui-même, c'est un cadeau et essayons de le prendre comme tel, c'est important.
Oui, tout à fait.
Est-ce que tu as quelque chose à rajouter, Diana? À nous partager, à nous offrir? Tu as déjà offert beaucoup, ceci dit, alhamdoulilah.
Justement, à soi, à chacun d'entre nous, à chacune d'entre nous, de s'offrir justement cette rahma-là, tu vois. Aujourd'hui, maintenant qu'on a parlé un petit peu de toutes ces choses-là, n'hésitez pas à vous informer, à comprendre comment vous fonctionnez, à échanger de ces sujets-là. Alors, important, avant d'en parler avec son époux, peut-être d'en parler à soi-même, de se parler, de se dire les choses, parce que c'est important aussi de voir quelles sont vos limites, de vous poser la question même de ce que vous aimez, de ce que vous n'aimez pas, de ce que vous avez peut-être déjà aimé, ce que vous n'aimez plus, de l'inverse, et de se prendre par la main et de découvrir, de continuer à découvrir ça ensemble à deux. Et en tout cas, je vous en souhaite que le meilleur.
Allahou mamin. Mais merci pour tes vœux pieux, comme on dit. Merci Diana pour ton temps. C'était passionnant, vraiment. C'était super intéressant et c'était plein de douceur aussi. Et c'était pas du luxe pour aborder ce type de sujet. Où est-ce qu'on peut te retrouver, Diana, pour ceux qui le souhaitent, ceux qui souhaitent prendre contact avec toi ou demander un rendez-vous?
Alors, le site est actuellement, pour le moment, je prends pas de nouveaux rendez-vous à distance, mais ça ne saurait tarder. Le site est actuellement en cours de maintenance, mais je te fournirai un petit peu, ce sera le site internet notamment, que je te fournirai, Inch'Allah, tu pourras le transmettre si besoin.
Avec plaisir. Merci beaucoup, Diana, pour ton temps. Kaspatala te préserve toutes les personnes qui nous écoutent, et puissions-nous faire en sorte que le sujet de l'intimité ne soit plus une difficulté, une douleur, mais un cadeau, tout simplement.
Inch'Allah. Merci beaucoup, Madina. Salam alaikum.
Wa alaikum salam wa rahmatullah wa barakatuhu.
C'était Halal Love, le podcast qui cherche à s'aimer en Dieu pour semer mieux. J'espère que cet épisode vous a plu et j'ai hâte de savoir ce que vous en avez pensé, ce que vous avez choisi d'en retirer. Halal Love, c'est un podcast qui est conçu avec beaucoup d'amour et qui se nourrit du même ingrédient. Si vous souhaitez m'en envoyer un peu, beaucoup, passionnément, dites-le moi avec 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez 10 secondes et laissez un commentaire sympa, ça c'est si vous avez une minute. Si vous n'avez pas d'appareil Apple, aucun problème, abonnez-vous sur l'application de votre choix, Spotify, Deezer, Google Podcast ou autre. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à partager l'épisode autour de vous, sur vos réseaux sociaux, auprès de vos proches, de votre famille, de vos amis. Un grand merci à celles et ceux qui le font déjà et ceux qui pensent à moi dans leur doura. Qu'Allah Azzawajal vous récompense de la plus douce des manières. Vous êtes géniaux, j'ai pas d'autres mots. Je vous souhaite à tous une excellente semaine et vous dis à mardi prochain si Dieu veut. En attendant, peace et halal love sur chacun d'entre vous.